Ra Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service, en direct de la salle de conférence de la MONUSCO, sous vos applaudissements. Merci au Capi Service, émission spéciale à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Eh bien, nous allons parler et aborder des thèmes qui vont certainement vous intéresser tout à l'heure. Nous allons parler de la collaboration entre les casques bleus, les FARDC et la police nationale congolaise pendant la période des transitions. Merci à vous qui êtes venus nombreux pour participer à cette émission. Nous allons accueillir tout à l'heure nos invités et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de l'apport des sections de la MONUSCO dans la protection des civils en République démocratique du Congo. Alors merci à vous qui êtes là, étudiants, enseignants, etc. Merci d'applaudir pour vous-même très 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 fort. Et nous disons également merci à toute l'équipe de production, Tati Mapoukou, Bob Landou, Patrick Yassongwa et toute l'équipe d'outreach de la MONUSCO, de la communication sociale de la MONUSCO, sans oublier Jean-Marc Matouaki à la coordination. Merci d'être venu participer à cette émission et merci d'applaudir encore très 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 fort pour vous-même.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Célébration le 29 mai de chaque année de la journée internationale des casques bleus de l'ONU, une occasion de rendre hommage au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable au travail de l'organisation. Le thème de cette année, population, paix, progrès, importance des partenariats. En RDC, cette journée est célébrée dans un contexte de retrait progressif de la MONUSCO, approuvé par la résolution 2556. Les casques bleus ont contribué à sauver des vies et à apporter la paix et la stabilité. Cependant, ils ne peuvent pas à eux seuls réussir à créer les conditions pour mettre fin au conflit, d'où l'importance des partenariats avec les gouvernements, l'armée, la police, les organisations de la société civile, etc. Alors, comment s'est fait la collaboration entre les casques bleus et les FARDC, la police nationale congolaise pendant cette période de transition? Eh bien, nous allons aborder cette question avec nos invités que je vais rapidement accueillir. Nous avons le général des divisions Benoît Chavana, il est adjoint du commandant de la force de la MONUSCO. Mon général, bonjour. Voilà, bienvenue dans cette émission. Alors, dites-nous, la première question que je vous adresse, c'est de savoir quelle aujourd'hui nous célébrons la journée internationale des casques bleus sous le thème que nous avons donné tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire un mot à l'occasion de cette célébration?
Donc, non, cette journée, elle a tout son sens. D'abord, il faut célébrer les actions internationales en faveur de la paix, c'est indispensable, et il faut surtout et d'abord probablement rappeler le cadre, c'est-à-dire que une mission des Nations Unies, elle ne vient pas pour se substituer à l'autorité d'un État, elle vient en aide à un État qui l'a demandé, elle vient pour une mission et selon un mandat bien précis, qui est celui d'apporter ou de garantir ou de participer à la stabilité et à la sécurisation et d'apporter un soutien aux populations civiles. Donc c'est bien ce cadre-là qu'il s'agit de célébrer. Et cette célébration d'aujourd'hui, elle intervient dans un cadre très particulier, puisque le Congo, la République démocratique du Congo est en souffrance, on peut le dire. Les populations de l'Est du Congo sont en grande souffrance, vous le savez. Il y a des déplacements de population, des violences, des massacres dus à l'action de groupes armés. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, c'est pas l'objet. Et donc l'action de la communauté internationale, de l'ONU, elle a tout son sens, et d'abord dans un cadre bien précis qui répond à un processus. Et à partir de ce cadre, et c'est probablement tout l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, eh bien il faut savoir comment doivent s'établir les liens de partenariat, d'action commune, pour faire en sorte que la transition ait lieu. Et là, il faudra revenir sur la définition de transition. Il peut y avoir plusieurs définitions. Oui. Mais le vrai résultat de la transition, c'est simplement de faire en sorte que la mission soit remplie. C'est-à-dire qu'à la fin, eh bien, on ait un État qui puisse avoir les moyens de sa politique et qui puisse obtenir des résultats après avoir obtenu un coup de pouce, une aide de la communauté internationale.
Mon général, pouvez-vous nous parler de la nature de la collaboration qui est entre les forces, la MONUSCO et les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo?
Alors, encore une fois, je reviens sur le cadre. S'agissant de la force de la MONUSCO, puisque je parle non pas en mon nom, mais au nom de la force de la MONUSCO, il y a un mandat, protection des civils et soutien aux institutions et aux forces de sécurité, en l'occurrence les FARDC. Et ça se traduit physiquement, concrètement, sur le terrain par un déploiement. En l'occurrence, on a 13 500 casques bleus aujourd'hui qui sont déployés sur un certain nombre de bases et qui remplissent des missions qui sont destinées à la protection des civils, c'est-à-dire des bases qui peuvent servir de zone refuge, c'est-à-dire des bases à partir desquelles s'effectuent des patrouilles le long des axes pour protéger des convois et pour assurer une présence dissuasive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième partie de notre mandat, il est lié à la capacité d'effectuer des opérations à caractère offensif contre les fauteurs de troubles, contre les ennemis de la paix, contre les groupes armés, vous les appellerez comme vous voulez. Et c'est dans ce cadre-là, plus précisément, qu'intervient la collaboration précise, concrète, avec les FARDC.
D'accord, on va revenir dessus tout à l'heure. Il est temps d'accorder la parole au général des brigades Modi Bereté, qui est le chef de la composante police dans MONUSCO. Mon général, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service, à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus, dont les thèmes est population, paix, progrès, importance des partenariats. Un mot par rapport à cette thématique.
Ok, je pense que les éléments de l'intitulé ont été très bien choisis. Tous ces éléments ont leur poids, que cela soit la population, paix, progrès, ainsi que l'importance du partenariat. Le général Chavana vient de rappeler que au cœur du mandat, nous avons prescrit la protection des civils, c'est-à-dire quels sont les efforts que nous devons faire en accompagnement de la partie nationale pour que les populations puissent vivre et vaquer librement et être dans une situation de paix. Et nous pouvons aussi insister sur le mot partenariat. Le mot partenariat, celui-là nous appelle ou nous rappelle que nous sommes dans une période appelée expressément transition, et que la transition ne veut pas dire autre chose que comment organiser ou nous organiser avec le gouvernement pour travailler main dans la main pour que cette présence qui a été là pour deux décennies puisse partir de manière coordonnée et puis bénéfique aux populations congolaises. Donc je pense que les différents éléments ont leur poids, les différents éléments sont aussi complémentaires. Et je pense que nous aurons l'occasion, puisque nous avons le représentant de la PNC ici, de mieux développer quel type de partenariat nous avons dans le cadre de la transition que nous vivons actuellement.
Bien, nous allons accueillir le colonel Moana Mputu, qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission au Capi Service. Colonel Piero Moana Mputu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la police nationale congolaise. Alors, un mot à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus que nous célébrons aujourd'hui autour du thème « Population, paix, progrès, l'importance des partenariats ».
Oui, je ne ferai pas de la redondance parce que mes prédécesseurs ont eu largement le temps de débattre et de donner la sémantique sur la question. Mais je voudrais tout simplement vous dire que les forces ou la police onusienne ne sait pas entrer dans un pays souverain sans que la réquisition ne soit faite par les politiques de ce pays. C'est dans ce cadre-là que vous avez trouvé le mandat ou la mission des Nations Unies dans notre pays. C'est que nous étions dans une démarche à ce qu'ils puissent nous assister par rapport, n'est-ce pas, à certaines tâches de notre souveraineté. Mais je pensais vous dire que dans le cadre précis, pour ce qui est de la sécurisation du territoire national, des personnes de leur bien, s'agissant, n'est-ce pas, de la protection au niveau, n'est-ce pas, la présence physique, la sécurisation au niveau physique des frontières comme dans les zones minières, et la lutte contre le braconnage, la lutte contre la fraude, la lutte contre la protection de l'environnement, pour ce qui est, n'est-ce pas, de tâches régaliennes qui sont du domaine de la police, et la sécurisation des personnes et leurs biens, les renseignements et toute autre chose, cela est du domaine de la police nationale congolaise.
D'accord.
Et donc, nous sommes en partenariat avec nos amis de la police MONUSCO, c'est pour qu'ils nous apportent l'expertise nécessaire et que dans le cadre de la transition, lorsqu'ils auront, n'est-ce pas, affaire au moyen des agences des Nations Unies, si le cadre le permet, à continuer à leurs engagements pour qu'il y ait transfert échelonné progressif de compétences afin que cela revienne à la partie nationale que nous sommes, et bien, pour que là où ils seront, qu'ils voient que les acquis qu'ils ont eus sont devenus pérennes. C'est dans ce sens-là que je pensais commenter cette journée.
Bien, merci mon colonel. Merci d'applaudir très 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 fort pour toutes ces interventions. On va recueillir les questions dans la salle. Nous parlons de la collaboration entre les casques bleus, les FRDC et la police nationale congolaise pendant cette période de transition. Des questions déjà dans la salle adressées aux intervenants.
Ok, merci pour la parole. Moi c'est Eraste Kabasu, militant de la Lucha. J'ai suivi le général au milieu, je n'ai pas bien retenu son nom, dire qu'ils ont pour mission de protéger la population. C'est quoi pour eux protéger la population? C'est quoi vraiment protéger la population? Parce que plusieurs reprises, nous avons remarqué que les populations sont massacrées, sont tuées. Et quand nous suivons le rapport de la MONUSCO nous dit qu'elle est observatrice. Elle observe comment la population est tuée, c'est ça la protection de la population. Et je rangerai encore pour dire que dans la protection de la population, il faut défendre aussi les droits humains. Nous militons de la Lucha depuis le 1er novembre 2021. Il y a 13 militants qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient marre des tueries et qu'ils voulaient pas de cet état de siège. Alors, que fait la MONUSCO pour ces militants?
Les militants de la Lucha arrêtés.
Oui.
Merci beaucoup, monsieur, pour vos questions. D'autres questions dans la salle, rapidement.
Côté. Merci, je suis Séraphin Kirema, je suis de l'agence congolaise de presse.
Ok.
Je voudrais poser une petite question au colonel Mwanamputu. Est-ce que vous êtes satisfait de l'apport et du soutien de la MONUSCO quant à la protection, justement, des populations civiles? Parce que depuis près de 20 ans, pratiquement, la situation ne fait que s'empirer. Est-ce que vous êtes satisfait? Merci.
Merci, Monsieur Séraphin. Une autre préoccupation.
Bienvenue, Matumo. Je suis chercheur en sciences politiques, Université Paris-Sorbonne. Moi, ma question, c'est un constat. 30 ans plus tard, 22 ans plus tard peut-être, que la MONUSCO n'a pas réussi à rétablir la paix. Est-ce que vous estimez qu'il faut vous accorder encore du temps pour essayer de ramener la paix? Ça oublier que depuis que Boutros Ghali, en 1993, il a mis en place les state building, et dans tous les états où on a mis ces missions-là, la paix n'est jamais revenue. Est-ce que vous pensez que le Congo fera une différence pour que la vie revienne et considérera que les gens sont fatigués de votre présence sur le territoire congolais? Merci.
Merci, bienvenue. Une autre intervention ici.
Merci beaucoup. Alors je suis Patrice Toumba, je suis professeur à l'université de Kinshasa. Premièrement, c'est un constat. Les conflits en RDC sont récurrents, la MONUSCO est permanente, ça pose un problème. Est-ce que le partenariat dont vous parlez fonctionne réellement? Deuxièmement, je n'ai pas vraiment entendu parler de la brigade d'intervention, la brigade intégrée. J'aurais peut-être aimé qu'on puisse en parler, puisqu'il est question d'un effet dissuasif. On constate que la MONUSCO, d'ailleurs les prédécesseurs dans leurs questions l'ont également souligné, la MONUSCO n'a pas d'effet dissuasif hein, depuis les résolutions 1279 et 1925, créant la MONUSCO sous chapitre 7, bien entendu. Quel est l'effet dissuasif aujourd'hui de la MONUSCO? Merci.
Davina Ilunga, consultante et juriste de formation. En fait, ma question s'adresse au général. Vous disiez que le casque bleu soutienne... Le général qui est au milieu, je ne connais pas son nom.
Ah, le général Benoît.
Voilà, le général Benoît. Vous dites que vous soutenez la FARDC, le PNC, dans sa mission de protéger le civil congolais à l'est de notre pays. Alors que vous savez aussi que les violences continuent, les gens sont tués quotidiennement. Alors pour moi, cette journée n'est pas un échec pour la MONUSCO, pour votre mission, depuis que vous êtes ici au Congo, déjà depuis 20 ans.
Et merci. C'est quoi la question?
La question, c'est de savoir s'ils sont satisfaits de leur mission ou c'est un échec.
D'accord, merci pour toutes ces préoccupations. Je vais donner la parole au général des divisions Benoît Chavana. À vous la parole.
Merci, merci beaucoup, merci pour vos questions qui sont très claires. Donc je vais répondre de manière très directe. J'ai aucune raison de ne pas répondre de manière directe. C'est mon métier également. Donc j'entends que la MONUSCO est là depuis 20 ans et rien n'avance. J'entends que les populations sont toujours massacrées. On l'observe aussi. Mais la question, c'est est-ce la faute de la MONUSCO? Moi, quand vous posez les questions, vous dites... moi, vous savez, je me réveille le matin pas satisfait. Je suis malheureux. Je suis malheureux comme vous tous. Je suis triste comme vous tous de la situation. Maintenant, vous prenez une plaie béante et vous prenez un sparadrap, vous mettez le sparadrap sur la plaie béante, il ne se passe rien. Là, ça fait longtemps depuis que le monde existe que l'on sait que la résolution d'un conflit, c'est-à-dire la paix, ce à quoi aspirent les populations, ce à quoi tout le monde aspire. Moi, je suis allé me promener, j'ai été partout dans l'Est. Là, je vois très bien de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin d'être devin pour le savoir. Il n'y a pas besoin de lire des quantités de bouquins pour comprendre. On le sait bien, on le voit dans le regard des gens. Cette souffrance, on la ressent et on la ressent comme un échec. Personnellement, je ne parle pas au nom de la MONUSCO, je le ressens comme un échec humain. Quand vous avez un massacre dans un village, on dit bah, on n'y était pas, mais on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Et quand vous avez un nombre de groupes armés identifiés qui dépassent les 80 ou les 100, qui sont plus ou moins affiliés les uns aux autres, qui se regroupent dans des alliances de circonstances et qui vont massacrer à la machette, quel est le problème? Le problème, c'est pas d'envoyer... On pourrait multiplier par 10 les effectifs de la MONUSCO, je vous le garantis. On pourrait multiplier par 10, par 20, par 100. On ne réglerait pas le problème. Il y aurait toujours autant de massacres dans les populations. Il y aurait toujours autant de massacres. Donc la solution, je vous le dis, elle n'est pas militaire. La solution à la crise, elle n'est pas militaire. Elle est globale. Elle est dans le travail sur les causes profondes du conflit, dans l'exploitation des ressources. Elle est dans la volonté politique nationale. Elle est dans la volonté régionale. Et ensuite, je reviens sur le mandat, qui est un mandat non pas de moi, officier français, de lui, officier malien, ou d'officier de tel ou tel pays. Nous, on a été désignés pour travailler sous casque bleu. C'est pas ni un plaisir, ni une contrainte. C'est simplement un devoir pour essayer de remplir une mission qui est celle de l'humanité tout entière. Donc l'humanité tout entière, elle est là pour observer les souffrances des populations, comme vous dites, on observe, mais on n'observe pas les populations se faire massacrer, on observe pour essayer d'apporter une solution dans un processus global. Or, on sait que si la MONUSCO n'était pas là aujourd'hui, il est très probable que ce serait bien pire. Et on sait que quand on arrive, je le sais parce que j'ai accompagné moi-même des patrouilles qui arrivent quelques heures après un massacre dans un village, eh bien je sais, pour avoir essuyé des tirs, venant de soldats ou de bandits en dispersion, que si nous n'étions pas arrivés, ça aurait été pire. Donc il faut appeler un chat, il faut observer les choses. Je suis tout à fait d'accord avec votre observation. Donc la situation, elle n'est pas que militaire, elle est globale.
Elle est globale. De là, en général, je reviens à vous tout à l'heure, le temps de... il y a une deuxième question. Colonel Mwanapoutou, par rapport aux arrestations des militants de la Lucha, qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui a posé la question? Les militants de la Lucha qui sont souvent arrêtés.
La question m'a été attribuée.
Bon, je pense que tous les panélistes peuvent répondre à cette question-là.
Et d'accord. Vous savez, la fonction de la police nationale congolaise, elle est avant tout préventive. Et lorsque la prévention a échoué, c'est alors que la répression vient intervenir. À supposer que nos amis n'aient pas fléchi à l'anticipation ou à la phase préventive qui est la police administrative et que la police nationale est arrivée à doubler de vitesse pour exercer sa fonction régalienne de phase répressive, qu'ils ont été appréhendés et envoyés devant leurs juges naturels ou devant les ministères publics. Moi, je pense que le délai de garde à vue au niveau de la police nationale congolaise reste de 48 heures, à moins que je m'abuse. Si cela est dépassé, on demande de prolongation au niveau du ministère public. Au stade actuel, je crois qu'ils ont été déférés devant le ministère public qui instrumente à charge et à décharge. Donc, du moment où ils ont été présentés devant le ministère public, il n'appartient plus à la police de dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été relâchés, pourquoi ils n'ont pas été élargis. Je pense qu'il y a eu des incriminations pour lesquelles ils ont été appréhendés. Voilà, je pense que je répondais à la question.
D'accord. Alors, général Modi Ibérété, vous avez la parole.
On est dans un contexte où on parle de loi, de code pénal, de troubles à l'ordre public. Ce que la MONUSCO rapporte concrètement quand il y a des arrestations, c'est notre accompagnement au quotidien pour faire en sorte que les droits de tous les citoyens soient respectés. Que cela soit au niveau de la police, où nous faisons de la colocation avec nos collègues de la PNC, concrètement, nous passons, nous visitons les lieux de détention et nous marquons s'il y a lieu, attirons l'attention, s'il y a des délais qui sont dépassés. Et puis, nous les accompagnons aussi pour que les procédures puissent aller vite pour le bénéfice de la justice. Nos collègues des droits de l'homme, partout où nous sommes basés, font de même, y compris nous avons une section dédiée expressément à la, comment ce qu'on appelle, aux affaires judiciaires, qui travaille avec l'auditorat militaire, qui travaille avec la justice civile pour faire en sorte que les droits soient respectés ainsi que le droit à un procès équitable. Et tout cet effort-là est complété encore par la MONUSCO avec une section qui s'occupe des questions des affaires pénitentiaires qui, je pense que vous le voyez souvent à la télé, accompagne le ministère de la Justice pour l'amélioration des conditions de vie dans les prisons, pour l'alimentation, pour la prise en compte de la santé, etc. etc. Donc la MONUSCO se tient résolument en fait aux côtés des différents partenariats, puisqu'on parle de partenariat aujourd'hui, et pour que les éléments ou les principes essentiels que les Nations Unies promeuvent puissent être observés. Donc je ne voudrais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne un cas particulier. Et je voudrais, si vous m'en donnez bien sûr l'autorisation, juste réagir aussi sur les questions, les problématiques de protection des civils. J'ai vu que la question a été posée par des gens qui viennent du milieu universitaire. Il est très important pour nous tous de comprendre que quand on parle de protection civile, ou protection des civils, le focus est très souvent porté sur la protection contre les menaces immédiates. Ça veut dire qu'il y a une alerte, qu'il y aura une attaque, et on nous demande, comme on demande dans une ville normale quand il y a de la criminalité, qu'est-ce que vous avez fait une fois qu'il y a eu une alerte? On a tué des gens, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on a tué des gens. Et n'oublions pas que la stratégie dite de protection des civils est articulée d'une manière un peu beaucoup plus globale et beaucoup plus large que cela au niveau des Nations Unies. D'abord, la protection des civils prend en compte la prévention de ces alertes-là. Et la prévention, c'est la mise en place actuellement de différents réseaux dans vos communautés qui sont animés par les comités locaux de sécurité, par des correspondants qui sont dans les communautés. Mais cette première partie parle de dialogue. Parce que vous savez, vous êtes dans un pays où souvent dans certaines localités, il y a le discours de la haine qui est propagé, il y a des informations contre d'autres communautés, etc. Et le premier engagement de la MONUSCO pour la protection des civils, c'est de faire en sorte que les communautés puissent se parler et qu'il y ait les mécanismes au sein des communautés pour qu'il n'y ait pas, en fait, disons, recours à la violence. Maintenant, le deuxième tiers, c'est le tiers dont on parle le plus, c'est-à-dire on a attaqué physiquement les gens. Qu'est-ce que vous avez fait? Et je pense que la problématique, on l'a dit depuis le début de cette mission-là, très difficile pour l'État, la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute autre force partenaire, d'avoir un policier ou un militaire devant, dans chaque village ou devant chaque case ou partout où il y a des problèmes. Donc ça, c'est une problématique qui est très très difficile, et la force, je pense que le général peut revenir là-dessus, utilise aujourd'hui un concept qui s'appelle projeter pour protéger. À chaque fois qu'il y a eu des alertes, on a envoyé systématiquement des militaires pour s'implanter, pour montrer que nous sommes là, nous veillons et nous allons répondre si vous attaquez les populations civiles. Et cet effort, il le fait en partenariat avec les FARDC. On le fait en partenariat avec la PNC. Et le deuxième ou le troisième tiers, et qui n'est pas moins important, c'est le tiers qui porte sur la création d'un environnement protectif. Et c'est quoi cet environnement protectif? C'est le travail que nous faisons tous les jours avec la police, avec les FARDC, les formations qu'on donne. Et cela, ce n'est pas seulement pour les espaces où les gens sont isolés, où il y a des menaces, etc. C'est quand vous sortez pour manifester à Kinshasa et que la police est bien formée et a du gaz lacrymogène, au lieu de tirer des balles réelles, va tirer du gaz lacrymogène. Quand on vous arrête, vos droits sont respectés et tout cela procède de ce qu'on appelle la création d'un environnement protectif. Donc la MONUSCO est résolument engagée en partenariat avec l'État de la République démocratique du Congo sur ces derniers éléments. Si vous voulez, je vais juste terminer.
Oui, allez-y rapidement.
Voilà, rapidement. Mm-hmm. Puisqu'on nous demande aussi si on doit nous accorder du temps pour le state building, etc. C'est bien, parce que c'est, j'aime bien les questions qui viennent du niveau université. Aussi. C'est un deuxième élément de notre mandat. On nous a dit la protection des civils, mais le deuxième élément, c'est les capacités institutionnelles. Et puisqu'on parle de transition aujourd'hui, et nous sommes dans toute grande humilité, quand on regarde la taille du Congo, quand on regarde les problématiques qui sont là, ce n'est pas fondamentalement la MONUSCO qui est la mieux outillée pour, en fait, relever l'État, si je dois dire comme ça. Mais le partenariat, la contribution de la MONUSCO peut contribuer à cela, avec les autres partenariats bilatéraux, avec différents autres partenariat que la RDC est en train d'établir. Donc il ne s'agit pas pour la MONUSCO de traîner les pas, d'être là indéfiniment, etc., mais c'est de voir stratégiquement qu'est-ce que nous faisons pour ce state building-là. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, pour le DDR aujourd'hui. Vous avez un programme PDRCCS. Qu'est-ce que cela peut faire pour atténuer la violence? Et là, nous sommes aux côtés de l'État pour le faire.
D'accord. Dans les différents éléments de la justice, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Je reviens à vous, général Benoît Chavana. Il y a eu une question par rapport aux effets dissuasifs, de la force dissuasive de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette préoccupation-là?
Alors, justement, c'est une des... J'ai le sentiment de ne pas avoir complètement répondu à toutes les autres questions, mais malgré tout, sur l'effet dissuasif, il faut savoir que le mandat il y a plusieurs types de mandats pour les opérations de l'ONU. Et on a évoqué tout à l'heure chapitre 6, chapitre 7. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le chapitre 7, c'est grosso modo le mandat le plus robuste qui soit pour un emploi de la force de l'ONU et qui autorise des opérations offensives. C'est-à-dire que les casques bleus ne sont pas que des observateurs qui viennent protéger, qui sont là en réaction ou qui patrouillent. Il y a possibilité de planifier et de conduire des opérations à caractère plus offensif, soit unilatéralement, sur la base d'un objectif fixé, soit conjointement. Et ce conjointement est très important puisque c'est ce que nous faisons avec la FRDC. Donc il y a deux aspects, puisqu'on parle de partenariat avec les FRDC. Il y a d'abord la connaissance mutuelle avec les FRDC, les éléments de liaison, de coordination. On a établi des centres, on a partagé énormément d'informations et on continue à le faire. Et on apporte un soutien logistique, etc. Ça, c'est la coordination au quotidien avec les FRDC. Et il y a les préparations d'opérations conjointes contre des objectifs qui ont été établis ensemble. Alors, la dissuasion, elle se manifeste notamment avec la création de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je crois que c'est vous, la brigade d'intervention de la force, qui est un outil qui a été mis en place il y a quelques années et qui est arrivé à pleine capacité seulement récemment, et qui est une brigade qui, contrairement aux autres unités de la MONUSCO qui sont déployées en base et finalement qui ont une responsabilité plus zonale ou territoriale, cette brigade d'intervention, elle est appelée à intervenir partout. Et je pourrais vous donner 10, 20 exemples de ces dernières semaines au cours desquelles, quand il y a eu le moindre incident ou la moindre suspicion d'incident, on a envoyé une unité, ce qu'on appelle les Quick Response Force, et c'est des unités de 250 soldats, ici ou là, pour prévenir le danger. Et souvent, c'est comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Hein. On parle de tout ce qui va mal et de tous les massacres, mais on ne parle pas de tout ce qu'on a évité. Et on a évité déjà beaucoup de choses, et on continuera à le faire. Et le dernier point que je voulais évoquer à propos de cette force, c'est qu'elle a évidemment une résonance et un sens militaire en termes d'efficacité sur le terrain, avec une déployabilité très, très immédiate, une rapidité, une flexibilité, une réactivité. Mais il y a aussi un sens politique, puisque cette brigade d'intervention de la force, elle était composée en très grande partie de pays contributeurs de la région. Et donc, ça change pas mal les choses. Ce ne sont ni des Belges, ni des Canadiens, ni des Américains. Ce sont des Kenyans, des Tanzaniens, des Africains du Sud, des Népalais aussi, c'est pas tout à fait la région, mais en tout cas, ce sont des unités qui ont dont l'emploi a une résonance politique. Et donc politique, donc dissuasive également.
Oui, général Benoît, aujourd'hui il y a les opérations conjointes entre l'Ouganda et les FARDC. Est-ce que cela impacte sur la collaboration MONUSCO et FARDC?
Oui, bien sûr, nécessairement, pour deux raisons. La première, c'est que cette opération conjointe avec l'Ouganda UPDF a été décidée par la RDC et l'Ouganda, bien sûr, hein, c'est un accord bilatéral, la MONUSCO n'est pas intervenue dans ce processus, et pourtant, ces opérations se déroulent dans une zone qui est une zone où la MONUSCO est déployée, donc elle est concernée au premier chef. Étant concernée au premier chef, on a mis en place un mécanisme trilatéral tripartite de coordination, de manière à échanger toutes les informations possibles, à s'apporter un soutien mutuel en termes de renseignement, en termes de logistique, et donc cette coordination fonctionne.
Bien, au Capi Service, émission spéciale, à l'occasion de la journée des casques bleus, nous sommes dans la salle des conférences de la MONUSCO, ici à UTEX Africa, à Kinshasa. D'autres questions dans la salle? Voilà, on va d'abord donner la parole au colonel Pierrot Mwanaputu, qui veut répondre à une question qui lui a été adressée par l'ACP. D'accord, allez-y.
Je voudrais vous dire, tout simplement, vous avez posé la question de savoir si nous étions satisfaits de l'apport de la police
de la MONUSCO.
Je voudrais vous dire tout simplement que nous avons comme principe fondateur de notre plan quinquennal d'action prioritaire qui est basé sur la quadrilogie formation équipement, infrastructure prise en charge de la police nationale et des policiers. Je voudrais vous dire que dans le cadre de cette cardiologie, nous avons demandé à ce que nous puissions rencontrer notre partenaire privilégié qui est la police MONUSCO. Et nous sommes assis pour peaufiner un programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. C'est ce cadre-là qui est un cadre de travail qui fera que, au départ des forces onusiennes ainsi que de la police, que les agences des Nations Unies puissent continuer les engagements qui ont été pris dans le domaine de la sécurité intérieure de la police nationale. Mais sur le plan pratique, vous serez sans savoir que sur le plan de collaboration, nous avons premièrement l'appui de la police MONUSCO en termes de patrouilles mixtes que nous sommes en train de faire dans le cadre, n'est-ce pas, de la sécurisation des personnes et leurs biens, la protection des personnes et leurs biens. Au niveau de l'Est, savez-vous qu'il y a de camps de déplacés internes. Il y a des patrouilles qui ont été effectuées avec la MONUSCO. Il y a la protection basée sur les violences basées sur le genre, le monitoring qui a été fait par la MONUSCO et notre collaboration aussi. Et vous savez qu'au niveau de l'Est, il a été mis en place une stratégie opérationnel de lutte contre l'insécurité que nous avons appelé SOLI. Nous avons ça au niveau, ce sont des polices communautaires, hein, la taille de 50 par jour, 80 ou 100. C'est-à-dire nous avons un peloton jusqu'à ce que nous allons atteindre une compagnie. C'est une police communautaire qui a été mise en place par nos amis de la MONUSCO, où le commandant de police travaille en collaboration avec le chef de quartier dans la gestion sécuritaire de l'espace. Et là, MONUSCO nous vient appuyer en termes de carburant, en termes de vivres, d'équipement, en termes de formation dans le domaine de l'interpellation de l'équipement et pourquoi pas de technique.
Alors,
de...
colonel Pierrot, moi, d'un peu
non, non, je n'ai pas fini, parce que c'est très important.
D'accord.
Très important.
Allez-y.
Sinon, il n'y aurait pas de raison de m'en venir ici. Laissez-moi parler. Et puis, vous voyez, il y a la formation qui est donnée dans le cadre, n'est-ce pas, des interventions, des techniques d'intervention. C'est-à-dire, il y a même la ligne verte par rapport, n'est-ce pas, aux appels au secours. Et vous trouvez ces structures opérationnelles de stratégie au niveau de Kalemi, Bukavu, Beni, Goma, Ocha, je crois aussi Anuvira.
Un numéro vert de la police. Et,
oui, oui, que les amis de la MONUSCO ont mis pour que les policiers qui sont là puissent travailler avec, en collaboration avec la population et appeler au secours. Parce que la gestion quotidienne de la sécurité n'est plus une question de souveraineté hein, de la police. Elle est maintenant partagée avec la population dans le cadre, n'est-ce pas, de la police communautaire ou de la police de proximité. Et maintenant, c'est vous dire que si vous prenez maintenant, ça c'est le domaine, n'est-ce pas, de la sécurisation des personnes des biens. Si vous menez maintenant dans le domaine de la formation, la MONUSCO et la police MONUSCO nous a donné la formation de formateurs pour que quand ils partiront, que nous puissions continuer à relayer cette formation-là. Et dans le cadre, n'est-ce pas, des infrastructures, je ne suis pas là pour féliciter le général police commissionnaire, mais je sais que dans leur projet, ils ont prévu 11 constructions, et dont 5 sont déjà en cours. Nous avons la construction de l'antenne provinciale, l'antenne de l'inspection générale, l'antenne provinciale au niveau de l'inspection générale au niveau de Kalemi, et nous avons la construction de quartier général de la police à Beni et à Ocha. Et pourquoi pas le commissariat?
Vous n'allez pas tout citer parce
cabarets.
Qu'il y a tellement beaucoup de choses.
Ah, mon colonel. Que ma tête est bien étoffée.
Mais c'est très bien.
Merci beaucoup.
On va revenir ici tout à l'heure. Le temps de recueillir une autre série de questions. Nous parlons de la collaboration entre les casques bleus, les FRDC et la police nationale congolaise pendant cette période de transition. Des questions dans la salle?
On commence par ici, Jody.
Oui, madame. Merci de vous présenter et de poser brièvement votre question.
Merci. Je suis Belinda Luntadila. Oui. Avocate, rapporteure sortante de la Commission nationale des droits de l'homme et président d'une ONG, R de Congo. Voilà, ma question, c'est à tous les intervenants. Nous avons entendu tout à l'heure parler de la solution qui doit être globale, militaire, politique, diplomatique, ainsi de suite.
Et régionale aussi.
Et régionale. Et ça fait 20 ans. La question de savoir... bon, d'abord, ça aurait été mieux, à mon avis, entendre cela... que cette réunion soit également associée avec les politiques, les diplomates, ainsi de suite. Mais comme on a les militaires, on va se limiter aux militaires. Ben voilà, en première ligne, parce que c'est le front, on a dit.
Ouais.
Mais, et donc, qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans pour qu'il n'y ait pas justement cette solution? On vient d'être... on vient d'avoir la présidence de l'Union africaine. Vous avez parlé vous-même de la solution régionale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Que les militaires nous disent, je sais que eux, ils sont militaires, ça veut dire exécutants, si je ne me trompe pas, et police également. Mais est-ce qu'il y a eu ces réunions-là depuis 20 années de ce pays, dans ce pays, que la MONUSCO n'a pas toujours, par accompagnement à la RDC, de solution à cette question? Et pour les M23, ils vieillissent, ils naissent, ils grandissent et ils continuent. Quid de la solution définitive?
Bien, merci Madame Belinda. D'autres questions dans la salle par rapport à la collaboration entre les casques bleus des Nations Unies, la police nationale congolaise et les FRDC?
Merci pour la parole accordée. C'est Kabassé Lefranc, étudiant en troisième année de droit à l'Université catholique du Congo. Ma question s'adresse au général Benoît. quelles sont les activités de la MONUSCO qui sont en cours en matière de la protection civile?
Merci Kabasele pour la question.
Merci pour la parole. C'est Karine Kankou, coordonnatrice de la DINAFEC, Dynamique Nationale des Femmes Candidates. J'aimerais poser une question par rapport à la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Si on peut nous donner quelques exemples ici où les casques bleus travaillent avec les femmes dans la résolution de ces conflits. Et aussi par rapport à Tanganyika, j'aimerais savoir, c'est en juin où on a prévu ces retraits. Est-ce qu'aujourd'hui, au mois de mai, la MONUSCO pense que la province du Tanganyika est-elle prête pour que la MONUSCO puisse se retirer, ou ça sera un départ et un retour encore après? Et aussi certains endroits où on dit qu'on ne sent pas vraiment l'autorité de l'État, si je ne me trompe pas, par exemple à Calais, mais qu'est-ce que la MONUSCO fait pour que l'autorité de l'État puisse vraiment s'imposer dans ces endroits? Merci.
Merci. On prend les deux dernières questions de cette deuxième série. Allez-y, prenez le micro, prenez. Bonjour, monsieur.
Oui, bon, merci pour la parole. Je suis Israël Kabongo, juriste de formation à l'Université protestante au Congo, handicapé visuel et activiste du droit des personnes en situation de handicap. Alors, puisqu'on parle de la sécurité, ma question va dans ce sens. Avant la mission de l'ONU ou de la MONUSCO en RDC, est-ce qu'il y a eu, avant de s'engager à cette mission, est-ce qu'il y a eu déjà des objectifs assignés dès le départ? Et s'il y a de ces objectifs, est-ce que ces objectifs, selon eux, sont atteints ou ne sont pas encore atteints? Et si ces objectifs ne sont pas encore atteints, c'est partant de quel problème? C'est le manque des stratégies ou c'est quoi? Donc, j'aimerais bien que le colonel Pierrot Mwanampoutou réponde à ma question, parce que lui, il est du milieu, il connaît bien la situation. Et bien que je parle de la collaboration des MONUSCO et les systèmes sécuritaires congolais, mais lui peut mieux répondre, parce que je n'ai pas toujours été fan de la manière dont les Occidentaux apportent des solutions à des conflits. Donc lui, quand même, il pourra peut-être nous donner des réponses qui tiendra au beau fixe. Merci.
Merci Israël Kabongo. La dernière question de cette série, rapidement Tati.
Et, merci. C'est Martin Poy. Je suis étudiant en deuxième doctorat, faculté de médecine UPC. Tout à l'heure, le général Chavana a dit que le conflit à l'Est, par exemple, n'était pas seulement d'ordre militaire. Donc, effectivement, on a déjà localisé un problème. C'est comme une hémorragie. Et j'aimerais poser la question au colonel Pierrot. Est-ce vrai? Déjà, cette confirmation, est-ce vrai? Et jusqu'à quand cette hémorragie va continuer? Ça veut dire que si on ne traite pas la cause, il y aura toujours ce conflit. Donc, durant combien de temps on va continuer à saigner sans pour autant arrêter cette hémorragie? Merci beaucoup.
Bien, merci. Il y a aussi des professeurs d'université dans la salle, donc on peut vous accorder aussi la parole si vous avez... un mot à dire là-dessus. D'accord. Tati.
Merci de la parole. C'est Jean Bequin Moulamba, de l'Alliance des démocrates fascistes, ADFAT en sigle. J'avais deux petites questions.
Un parti politique.
Bien sûr, un mouvement politique. Deux petites questions. L'une s'adresse au général Benoît et l'autre s'adressera au colonel Pierrot. Voilà. La première question adressée au général, celle de savoir quels sont les mécanismes mis en place par la MONUSCO dans le cadre de l'intervention de casque bleu, si c'est ici parvenait à causer des dommages aux populations civiles. Vous ne pouvez pas me dire que lorsque les forces onusiennes interviennent, ils ne causent jamais des dommages. Il y a toujours certains dommages qui sont causés aux populations civiles. Alors quels sont les mécanismes qui sont mis en place par la MONUSCO pour réparer ces dommages? La deuxième question est adressée au colonel Pierrot. Voilà. Le colonel, dans ses propos d'entre-deux-G, il avait dit que dans le partenariat qui existe entre le casque bleu et la police nationale congolaise. Celui-ci consiste plus pour la police onusienne à apporter de l'expertise à la police nationale congolaise. Alors, ma question est celle de savoir à quoi serviraient les patrouilles auxquelles nous assistons jour et nuit de la part de la police onusienne. Merci.
Bien. Tati, il y a un professeur qui veut s'exprimer.
Oui, complément d'information. On lui donnera la parole. D'abord, allez-y. Comme ça, le temps qu'on termine.
Merci, merci pour la parole. C'est l'assistant Dovel Mbaki de l'UFASIC. Alors, je voudrais m'adresser au colonel Mwanamputu. Je voudrais poser deux questions. Au nom des intérêts, la politique aujourd'hui se résume, la politique extérieure, allais-je dire, se résume aux intérêts. Quels sont les intérêts jusqu'à nos jours? Qu'a la police nationale à rester en partenariat avec la MONUSCO lorsque nous savons, nous réalisons qu'aujourd'hui, vos filles, de l'autre côté, à l'Est, sont en train de pleurer, de mourir. Alors, la deuxième question serait de savoir, ces intérêts sont-elles profitables à la population congolaise? Si oui, comment? Merci.
Bien, merci monsieur pour la question. Professeur, vous avez la parole.
C'est Robert Chilombo, professeur à l'Université de Kinshasa. Je veux revenir sur quelques problématiques soulevées par nos amis dans la salle en ce qui concerne les liens entre la qualité de l'intervention des casques bleus sur terrain et les résultats escomptés. Et j'ai cru comprendre que toutes les difficultés qu'éprouvent nos compatriotes généralement à saisir la complexité et les limites de l'action onusienne sur terrain tient au fait que on n'a pas mis les doigts sur la nature des conflits eux-mêmes. Il s'agit ici de conflits soit internes, internationalisés, soit internationaux, internisés, selon les cas, et que donc les consensus...
C'est très complexe.
Les consensus minimales obtenus par les conseils de sécurité, lorsqu'ils se réunissent pour la première fois au sommet, c'est-à-dire avec la présence des chefs d'État et de gouvernement en 1992, pour la première fois, après la guerre froide, après l'effondrement du mur de Berlin, tout le monde a cru à ce moment-là que le monde s'est lancé sur une voie de consolidation consensuelle et de construction de la paix pour le développement et le bien-être de tous. Et à ce moment, à ce niveau-là, il a été demandé au secrétaire général des Nations Unies, Maître Boutros Ghali, d'élaborer un rapport sur la réforme à apporter en ce qui concerne le fonctionnement du maintien de la paix. Et donc Boutros Ghali, dans son rapport célèbre qui est appelé aussi l'agenda pour la paix, a défini les liens directs entre les conflits internes et la nécessité de trouver un consensus interne entre acteurs internes. Et donc, c'est là qu'il y a nécessité une démarche au niveau onusien de passer par les accords internes, les accords de paix réunissant l'ensemble des acteurs internes pour un consensus sur la nature et la manière de pouvoir rétablir la paix. Alors, j'entends les gens répéter, mais c'est l'état d'urgence qui va régler la situation, ou ce n'est pas l'état d'urgence, il faut qu'on lève l'état d'urgence. Le problème n'est pas tant ça. Le problème, c'est que le général Chabanas, je ne sais pas si je massacre le nom, il a bien identifié la nécessité d'un consentement minimal interne, régional et international. Mais au niveau du Conseil de sécurité, qui met en place les opérations de maintien de la paix, étant donné qu'il dispose de la plénitude d'action pour le maintien de la paix, le Conseil de sécurité est soumis à un consensus minimal. Le plus grand problème des Nations Unies aujourd'hui, ce n'est pas les casques bleus, ce n'est pas la MONUSCO, c'est l'Organisation des Nations Unies elle-même.
Merci, professeur Robert. On va revenir sur...
Parce que elle est, je voudrais ajouter juste un mot pour dire que elle est tributaire de la volonté politique des États et surtout aussi des États membres du Conseil de sécurité.
D'accord. Merci, professeur. On reviendra à vous tout à l'heure. Nous parlons de la collaboration entre les casques bleus, les FARDC et la police nationale congolaise pendant cette période de transition. Merci à tous les internautes qui ont réagi. Je vais rapidement lire quelques réactions des internautes sur la page Facebook d'Okapi Service. Il y a par exemple celle de Jeff Ilunga de Mbujimai. Mes préoccupations sont les suivantes. Les casques bleus sont au Congo-Kinshasa depuis quelle année, si vous pouvez me le rappeler? Deuxièmement, quelle avancée pouvons-nous compter en rapport avec leur traque des rebelles en RDC? Si nous avons bonne mémoire et notre réaction, nous pensons que les casques bleus sont en RDC depuis l'année 2001. Et jusqu'à présent, en 2002, la raison de leur présence ici n'est pas bien connue, car s'ils seraient venus pour appuyer nos FARDC, on aurait déjà une stabilité ici à l'est du pays. Ainsi, nous demandons aux casques bleus de nous dire en réalité leur vraie mission à RDC. Bon, il y a plusieurs réactions. J'ai lu d'abord celle-là. Colonel Benoît, mon général Benoît, vous avez la parole.
Je remercie ceux qui ont posé les questions. Elles sont nombreuses et de portées assez différentes. Et je vois que, d'une manière générale, on a toujours besoin de prendre du temps pour expliquer les raisons d'être de notre mission. Le cadre général, vous avez fort justement expliqué la problématique des Nations Unies. Alors, c'est pas le lieu du débat, mais c'est vrai qu'il y a une question et un débat sur le rôle, l'organisation des Nations Unies. Quant à la mission qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais répondre sur juste deux ou trois points qui m'ont été posés, indépendamment du fait qu'il a été bien souligné que les militaires étaient des exécutants. Oui, certes, des exécutants, néanmoins capables de concevoir et de réfléchir et de formuler des propositions. Et c'est bien ce que nous faisons. Il y a une question qui a été posée, qui revient un petit peu toujours sur le même thème, qui est celui de la protection des civils, et pour savoir ce que font les casques bleus de la MONUSCO en matière de protection des civils, concrètement. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'actions permanentes, ne serait-ce que la présence d'une base, ne serait-ce que l'escorte d'un convoi, qui sont des actions, j'allais dire presque silencieuses, et qui protègent, et qui empêchent, et qui dissuadent. Deuxième point sur ce sujet-là, je vais vous prendre deux exemples très précis, dans deux zones différentes. La première, c'est les camps de déplacés. Vous savez que la CODECO, les membres de CODECO ont fait des attaques un peu massives et avec des massacres importants sur des camps de déplacés. Eh bien, nous avons été les premiers à réagir sur place, à être présents avant même les FRDC, mais avec les FRDC, de manière à... parce que ce n'est pas le rôle de la MONUSCO que de protéger de manière permanente tous ces camps, qui sont nombreux. D'abord, on n'en a pas les moyens au total, mais ça peut être le rôle de la MONUSCO que d'organiser, de conseiller et de préparer la protection future. Et donc, nous avons dépêché dans l'urgence une unité chargée précisément d'organiser la protection de ces camps. Et le deuxième point, c'est que nous avons des bases qu'on appelle des SCD dans le jargon MONUSCO, et qui sont des bases temporaires et qui sont là pour répondre à des... Donc, c'est pas des bases fixes, permanentes, où les casques bleus seraient cachés derrière des barrières, et qui sont là pour répondre aux situations d'urgence, et notamment quand les groupes armés utilisent tous les moyens possibles pour élever les communautés les unes contre les autres. Et je pense notamment dans le sud de Kivu, sur le haut plateau, c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, où parfois on a des attaques de tel ou tel groupe armé qui visent à susciter des conflits intercommunautaires qui, en fait, n'ont pas lieu au départ. Hein. Et donc, à ce moment-là, on vient établir une base temporaire avec tous les contacts possibles qu'on a et tous les moyens possibles qu'on a dans la MONUSCO, civils et militaires, les personnes chargées des droits de l'homme, les personnes chargées du lien avec les communautés. Voilà ce que nous faisons tous les jours en matière de protection des civils. Je voulais aborder un deuxième point, qui est celui d'une question assez précise sur le mécanisme mis en œuvre en cas de dommages sur les populations civiles. Alors bien sûr, comme toutes les forces armées dans le monde qui agissent dans les conflits, et c'est le cas en Ukraine par exemple, vous voyez aujourd'hui, c'est le cas n'importe où dans le monde, le risque de dommages collatéral, qu'on appelle dommages collatéral, c'est-à-dire de blessures ou de morts parmi les populations civiles lorsqu'on déclenche une attaque, il est considérable, notamment parce que l'ennemi use, et c'est le cas à l'est du Congo, de stratagèmes pour se fondre dans la population, parmi les femmes et les enfants, et pour que du coup la riposte soit pas possible. La MONUSCO n'échappe pas à ce mécanisme, et il peut arriver, ce n'est pas impossible, c'est déjà arrivé dans le passé, qu'il y ait non pas une défaillance, mais que dans l'action, il y ait des dommages collatéraux. Les mécanismes existent, et il y a un processus d'enquête auquel nous sommes tous soumis, et notamment les chefs, dont je suis, et quand il y a une action particulière, avec des morts sur le terrain, que ce soit des soldats de la MONUSCO, que ce soit des soldats adverses, que ce soit des populations civiles, nous sommes tous soumis à un processus d'enquête.
Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous disons merci à tous les intervenants dans cette première partie de l'émission. Nous disons merci au général de division Benoît, adjoint du commandant de la force de la MONUSCO. Merci au général des brigades Maudi Bereté, chef de la composante police de la MONUSCO. Et merci au colonel Mwana Mputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Merci d'avoir participé à cette émission spéciale au Capi Service à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Sous vos applaudissements, nous mettons un terme à cette première partie.
Radio Okapi, Okapi.
Au Capi Service, jeudi Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service, en direct de la salle des conférences de la MONUSCO, émission spéciale à l'occasion de la journée internationale des casques bleus, collaboration entre les casques bleus, les FRDC et la police nationale congolaise pendant la période des transitions. Bien, général de brigade Maudi Bereté, vous avez la parole. Je rappelle que vous êtes chef de la composante police de la MONUSCO.
Oui, effectivement, je viens juste compléter un certain nombre d'éléments et essayer d'apporter des éléments de réponse à des préoccupations ici exprimées, principalement sur deux points, sur les objectifs ainsi que la solution finale, ainsi que sur la question de ce que nous faisons pour accompagner les questions relatives à la protection des femmes. Pour ce qui concerne les objectifs, je pense que le professeur Chilombo a bien brossé le tableau. Nous sommes réellement liés, guidés et orientés par ce que le Conseil de sécurité met dans notre mandat. Vous savez qu'au début, c'était d'abord la MONUC, et que la MONUC est venue dans une situation très tendue, où le pays était en prise au conflit et à la division. Si je dois parler du premier mandat qui a été donné à la police de la MONUC à l'époque, c'était de faire en sorte que les différentes polices puissent venir ensemble. D'ailleurs, la première activité que nous avons faite avec nos collaborateurs congolais, c'était d'appeler les représentants de toutes les polices, des différentes factions combattantes à l'époque, MLC, RCD, Goma, KLM, etc., ainsi que du gouvernement, avec le centre qu'on a établi à Kapalata, Kisangani, pour commencer le travail policier. Progressivement, vous avez vu aussi les évolutions que le mandat a évolué, y compris à un certain temps, je sais que beaucoup de gens se rappellent de cela, 2004, où il a été question d'appeler une force autre pour intervenir en Ituri, parce qu'il y avait la prolifération des groupes armés, il y avait la force Artemis, etc. Donc, nous sommes plus tard rendus dans un mandat dit de stabilisation, qui a donné le mot S dans le mandat pour devenir MONUSCO, où l'accent était beaucoup plus porté sur non seulement faire le DDR, donc désarmer, mais aussi rapatrier les combattants étrangers qui étaient là. Donc le mandat est évolutif et nous sommes heureux aujourd'hui, le général Chavana l'a dit, d'être à un moment où on parle de transition. Et donc le mandat de transition, c'est tout simplement les objectifs fixés pour la solution finale et définitive. C'est-à-dire que les Congolais sont responsables de leur sécurité, ça prend en compte les dimensions nationales, bien sûr, mais aussi les dimensions régionales, puisqu'il y a des contributions à l'insécurité résolue globalement, dans comment ce qu'on appelle, de manière régionale, mais aussi nous avons un mandat dit accessoirement à s'attaquer de et la cause pour cela que tous les contacts avec la cette semaine, vendredi, j'étais avec le général Amouli, ensemble, sans ajouter de l'intervention policière. Et la cause profonde, on le sait très bien, c'est le pillage des ressources, qu'elles soient naturelles, l'or, etc. C'est la porosité des frontières, parce que les gens rentrent et sortent comme ils veulent. C'est aussi des faiblesses structurelles sur l'équipement, sur les manières de faire, etc. Et dans le cadre de la transition, nous sommes en train de faire ce travail avec nos partenaires nationaux. Je voulais, pour finir, parler, il y a eu une question sur ce que nous faisons avec les femmes. L'ensemble de la présence des Nations Unies, pas seulement la MONUSCO, travaille sur la dimension du genre et de la protection des femmes. C'est dans notre mandat. On appelle cela un élément transversal qui, quelles que soient les activités que nous faisons, doit être prise en compte. Et je voudrais juste illustrer un tout petit peu par ce qui est fait au niveau de la police. Nous sommes avec la PNC, un plan de la protection des femmes. Vous savez, partout où vous êtes, en tant que Congolais, que la PNC dispose aussi d'escadrons de protection et de lutte contre la violence sexuelle. Et nous appuyons ces escadrons-là et nous travaillons là-dessus. La PNC a mis en place aussi un réseau de femmes et nous avons quelque part dupliqué en mettant le réseau similaire au sein de la MONUSCO pour Adla. Et nous engageons, quand il s'agit des investigations, nous engageons quand il s'agit de travailler avec la justice. Nous avons déployé à Goma et à Bukavu, ainsi que dans les autres localités, des équipes spécialisées en lutte contre la violence faite aux femmes. Donc voilà le genre de travail que nous faisons. Et nous sommes rendus aujourd'hui à un point où nous avons fait le constat avec la PNC sur qu'est-ce qui est fait opérationnellement sur le terrain et qui est important, et qu'est-ce qui doit être fait aussi au niveau supérieur. Par exemple, s'il n'y a pas de contretemps, à la fin de ce mois, l'ensemble des généraux qui commandent les différentes provinces PNC à l'Est, ainsi que des généraux qui sont à Kinshasa, doivent se retrouver à Bukavu pour discuter de qu'est-ce que la PNC fait en termes d'engagement pour la lutte contre la violence.
Général Maudy, on peut dire, comprendre par là que le mécanisme des transitions sont déjà déclenchés au niveau de la police, de la MONUSCO et de la police congolaise.
Absolument. C'est ce que je pense le colonel Monapoutou expliquait aussi. En ce qui concerne la transition, autant au niveau politique, entre le gouvernement et la MONUSCO, donc Mme Keta et aussi le Premier ministre, il y a eu un cadre de travail qui a été établi. Nous, au niveau opérationnel, nous avons établi carrément un groupe de travail entre la PNC et nous. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons identifié. Il y a déjà des plans qu'on ne va pas changer, les priorités qui sont dans ces plans-là. Et maintenant, comment travailler avec des principes clés. Et l'un des principes clés, naturellement, c'est l'appropriation nationale. Un des principes, c'est le général Amouli nous demande qu'est-ce que vous laissez en partant. Donc, chaque activité que nous faisons, si vous faisiez de la formation, faites plus de formation de formateurs. Et si vous faisiez de l'infrastructure, mais un peu temporaire, etc., faites des constructions dures, etc. Voilà un peu la manière dont nous travaillons avec la partie nationale sur la transition, avec l'idée que nous ne sommes pas seuls. Les Nations Unies, Mme Keta explique que la MONUSCO part, mais les Nations Unies restent. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les agences. Aujourd'hui, le colonel l'a mentionné, nous avons un programme conjoint police qui regroupe la MONUSCO police, les droits de l'homme de la MONUSCO, la section justice de la MONUSCO, la section de lutte contre les mines, mais aussi UNODC, OIM, ainsi que le PNUD, pour travailler ensemble pour les objectifs qui sont fixés par la transition. Ces objectifs, c'est réellement de s'attaquer aux causes profondes, mais aussi dans toute l'humilité, parce qu'on doit être très humble. Les problèmes sont nombreux, le Congo est très grand. C'est que nous, dans la stratégie, nous disons que nous mettons en place des modèles, et la République démocratique du Congo peut se les approprier pour continuer le travail après la sortie de la MONUSCO.
Bien, merci Général Maudy. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort au Capi Service, émission spéciale en direct de la salle de conférence de la MONUSCO à Utex Africa, à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Colonel Pierrot Monampoutou, vous avez la parole. Plusieurs questions vous ont été adressées.
Oui, bien sûr que merci beaucoup. Je voudrais ramasser la plupart de ces questions par une certaine illustration. Nous prenons un support didactique. Il sera un peu monstrueux pour vous. Je prends le serpent. Vous voyez la tête du serpent, la partie entre la tête ainsi que la queue, et la queue. S'agissant, n'est-ce pas, de la résolution des conflits, nous avons la tête du serpent, les manipulateurs, qui sont à l'extérieur, qui financent les opérations de troubles et d'agressions, et des groupes armés locaux comme extérieurs. Ils ne sont pas avec nous ici. Ils sont à l'extérieur du pays. Ils ne sont même pas en Afrique. ils sont dans notre continent. Nous les avons appelés des manipulateurs, la tête du queue, la tête du serpent.
Le serpent.
Entre la tête et la queue, ce sont de sous-traitants. Ces sous-traitants-là sont en Afrique. Ce sont des commissionnaires, des manipulateurs qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Et la queue, ce sont les exécutants, les groupes armés, locaux comme étrangers. Lorsque vous voulez résoudre cette question-là des conflits pour amener la paix, il faut débattre avec toutes ces personnes-là. Vous voyez la complexité de la paix en RDC. Et vous voyez que tous les groupes armés, locaux comme étrangers, on les situe dans le centre minier. Les agglomérations où il y a des gisements miniers. Pourquoi? Parce qu'ils doivent remonter cela aux sous-traitants, et les sous-traitants le remontent aux manipulateurs. Alors, les gouvernants doivent aller négocier avec toutes ces personnes-là. S'ils négocient avec les manipulateurs calment les sous-traitants, et les sous-traitants donnent des instructions à l'exécutant, et vous avez un semblant de paix.
D'accord, merci mon collègue.
Vous pensez que j'ai fini?
Oui, non, on va revenir là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On va revenir là-dessus. Alors, je vais rapidement lire la question d'un internaute. La question est adressée au général Benoît. Une question par rapport au combat sur terrain entre les FRDC et les M23 au Nord Kivu. J'aimerais savoir qu'est-ce que les casques bleus ont vu. Ce mouvement utilise-t-il des armes sophistiquées? Est-il appuyé par une armée étrangère? Comment arrive-t-elle à se refaire une santé? Et puis il y a eu Madame Karine qui a posé la question par rapport au retrait de la MONUSCO du Tanganyika qui est programmé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces préoccupations, général Benoît?
Alors, d'abord concernant les combats contre le M23. Il ne vous a pas échappé que le M23 a ouvert, on pourrait dire, plusieurs fronts, qui sont des petits fronts. C'est pas une attaque d'envergure, comme on a pu connaître par le passé sur Goma, mais néanmoins, c'est quand même une attaque importante, à partir de positions qui ont été établies depuis pas mal de semaines déjà, à hauteur des trois frontières, vous le savez, hein, et donc un peu avec une offensive un peu multidirectionnelle en direction de Bunagana, Rutshuru, et puis finalement un petit peu vers Goma. Le but, on pourrait caractériser le but des M23 en disant que non seulement il s'agit de conquérir des espaces, du terrain, de terroriser, de créer une sorte de chaos, et en s'attaquant à l'axe qui relie Goma et Rutshuru, c'est-à-dire la RN2, d'essayer de couper les lignes de communication et les lignes de mouvement, de soutien logistique des forces FRDC et également MONUSCO d'ailleurs, et d'entraîner une sorte de mouvement de panique dans les populations. D'une certaine manière, ce but des guerres a été partiellement atteint et a occasionné des réactions des FRDC. La MONUSCO y a déployé l'ensemble de ses moyens, l'ensemble de ses capacités, qu'elles soient de renseignement, d'observation, de transport, d'appui feu, que ce soit l'artillerie, les mortiers, les hélicoptères d'attaque. Donc je ne peux pas dire actuellement, puisque les actions se poursuivent sur le terrain, très précisément quel est l'état des lieux. C'est impossible à dire aujourd'hui. Il y a eu une certaine confusion, c'est une évidence. Une certaine mouvement de panique, c'est possible. La MONUSCO invite simplement à deux choses. D'une part, à cesser les combats le plus vite possible, et d'autre part, à chacun à garder son calme. Voilà. Donc c'est pas une appréciation archi positif, c'est une appréciation de prudence et une appréciation réaliste. Quant à l'équipement dont bénéficie le M23, il est certain que le M23 bénéficie d'équipements et de moyens militaires qui sont supérieurs en sophistication et en volume à ce que certains groupes armés ont l'habitude d'employer dans l'est du Congo, c'est une évidence. Savoir si le M23 est soutenu de manière directe ou indirecte par une armée étrangère, ce n'est pas à moi de le dire. Le mécanisme d'application et de compte est à l'œuvre en ce moment et qui donnera ses conclusions. Vous le savez, donc je n'ai pas à me prononcer sur la question. Nous avons à contrer l'action d'un adversaire militaire sur le terrain. Nous le controns avec la MONUSCO en appui au FRDC le plus efficacement possible.
D'accord, merci. Alors par rapport à la question sur le retrait de la MONUSCO du Tanganyika.
Alors sur le retrait de la MONUSCO du Tanganyika, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, pour une raison simple, je vais te laisser la parole à l'instant, pour une raison simple, c'est que l'empreinte militaire de la MONUSCO, c'est-à-dire la force, vous l'avez observé, c'est d'ailleurs un des signes d'une forme de succès de la mission depuis des années, c'est que petit à petit, le dispositif, le centre de gravité de la MONUSCO s'est centré sur Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, et si nous ne sommes plus dans le Kasaï, et si nous ne sommes plus au plan militaire avec les forces de la MONUSCO dans le Tanganyika, c'est précisément parce que nous avons estimé, conjointement avec les autorités congolaises, que la présence de la MONUSCO devait se concentrer sur trois provinces. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de forces militaires de la MONUSCO dans le Tanganyika. En revanche, il reste des éléments de police. Donc je laisse la parole à Maudi Bereté.
Ok, merci beaucoup, mon général. Mais pour le retrait de la MONUSCO de Tanganyika, il y a effectivement notre bureau, l'adjoint à Madame Keita qui s'occupe des affaires humanitaires, qui est en train de faire la coordination. N'oublions pas que le prescrit du mandat, c'est que c'est une action qui doit être coordonnée avec la République démocratique du Congo, mais aussi combinée entre les agences des Nations Unies et la MONUSCO. Donc ce qui est prévu, c'est que les agences renforcent leur présence ainsi que les programmes qu'ils ont là-bas. Et puis il est aussi prévu que la MONUSCO garde une petite présence résiduelle pour appuyer les agences, parce que les agences savent s'engager sur le plan programmatique, mais jusqu'ici la MONUSCO a quand même prouvé que sur le plan de l'engagement politique, etc., ils peuvent avoir une valeur ajoutée. Le colonel Monapoutou mentionnait le déploiement de 300 policiers. Cela fait partie de la stratégie que nous avons. Par exemple, en nous retirant du Tanganyika, on a identifié le secteur de Nyuzu et Bendera comme étant un secteur très problématique avec de l'insécurité. Donc le gouvernement est en train de travailler avec nous afin que la présence policière soit augmentée là-bas pour accompagner les FRDC encore une fois. Et là-dessus, il était prévu d'ailleurs que la semaine prochaine ou cette semaine, on fasse un déplacement à Kalemie et pour affiner les plans sur lesquels nous avons travaillé,
merci,
permettant
général
de mettre 300 policiers
d'accord
en plus pour contribuer à la sécurité.
Merci général Maudi. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette première partie de l'émission spéciale au Capi Service à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. On va prendre deux dernières questions rapidement. Tati, deux dernières questions et puis on va clôturer cette première partie. Et on va passer à la deuxième. Deux questions rapidement, soyez brefs.
Merci.
Allez-y rapidement.
Merci, c'est David Kawasele, étudiant à l'Université Pédagogique Nationale et juriste en formation. Ma question s'adresse au général Benoît ainsi qu'au colonel Monampoutou. Puisque tout ce qui nous intéresse en République démocratique du Congo, c'est la paix sur tous les territoires nationaux. Mais nous avions comme l'impression que la MONUSCO et l'État congolais, c'est comme une femme qui trompe la vigilance de son mari en flirtant avec d'autres hommes en dehors, mais dont ces derniers connaissent que sa femme le trompe, mais sans rien dire. Dans le sens où la MONUSCO dit clairement que la solution ne peut pas toujours venir de lui quand il s'agit de la paix congolaise. Mais aussi, ça peut être une solution globale. Donc, du point de vue d'ordre interne, il faut que le politique se mette, d'accord?
Alors la question,
celle de savoir.
On n'a plus beaucoup de temps.
Quel est l'intérêt que la MONUSCO continue jusqu'à aujourd'hui à rester en République démocratique du Congo, surtout quand il s'agit de la paix, aussi longtemps qu'elle connaît que la solution ne peut pas venir d'elle?
Merci. Merci. La dernière question, la toute dernière.
Oui.
Il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Dommage, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Dernière question, oui, madame. Allez-y rapidement.
Je suis madame Rose Mutianga de CIFES. En fait, merci beaucoup, mais j'ai trois petites préoccupations. La première, c'est que je n'ai pas été satisfaite de la réponse de madame Kankou. Parce que la résolution 1325 ne vous demande pas seulement de travailler avec les femmes policières. Non, ça vous demande de collaborer avec toutes les femmes. Dans tout ce que vous allez faire, toutes les questions de paix et de sécurité, il faut associer les femmes et surtout les femmes de la société civile, ce que vous ne faites
d'accord,
pas.
D'accord, ma deuxième préoccupation,
je suis la dernière, laisse-moi parler calmement, ça va partir.
Allez-y, madame.
Ma deuxième préoccupation, c'est que je n'ai pas compris. Vous avez bien dit là-bas que en Ituri, par exemple, là où il y a les cas des déplacés de guerre, vous êtes là à côté de la police pour sécuriser. À ce que je sache, les camps de déplacés de guerre et les camps de réfugiés sont des structures bien protégées par les Nations Unies. Là où on a mis un camp, les Nations Unies doivent être là. Mais là, je n'arrive pas à comprendre comment on peut tuer, pas une seule fois, pas deux fois, plusieurs fois dans les camps de déplacés de guerre et ça passe comme un fait banal. Une fois, on peut comprendre. Deuxième fois, troisième fois, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que les déplacés de guerre ne soient plus égorgés tous les jours.
Merci, et ma madame, dernière,
j'ai
oui.
pas fini. La dernière préoccupation, c'est que vous avez bien dit que et je vous remercie parce que déjà vous êtes en transition et nous croyons que la transition va finir le plus tôt possible. Mais moi je me pose la question 20 ans après. Vous êtes là en train de nous enseigner, nous, la police et l'armée congolaise. Mais 20 ans après, nous sommes toujours case de départ. Je me pose la question, la leçon que vous nous donnez, est-ce que c'est nous qui ne l'assimilons pas ou vous la donnez mal pour
merci,
que nous
madame.
Ne puissions pas
merci.
Pourquoi je viens de le dire? Excusez-moi une minute, pourquoi
merci
je viens
beaucoup,
de le dire?
Merci beaucoup madame, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, je vais donner la parole aux panélistes qui n'ont que 30 secondes chacun pour répondre, donc soyez rapides. On commence avec celui qui veut prendre la parole, hein, le général Benoît.
Je voudrais répondre à une question qui est très importante, qui est celle du retrait de la MONUSCO et de pourquoi restez-vous, quel est l'intérêt de la MONUSCO à rester. Le premier intérêt, d'abord il est double. Le premier intérêt, c'est que c'est la République démocratique du Congo qui demande la présence de la MONUSCO. C'est le premier point de départ. C'est-à-dire, si l'ONU a exprimé une résolution et s'il y a un mandat de la MONUSCO, c'est parce que la RDC le demande. Et le jour où la RDC, devant les Nations Unies, dit « nous ne voulons plus de la MONUSCO partira ». Donc c'est aussi simple que ça. Il faut quand même le rappeler. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en étant présent, indépendamment de la question de la sécurité, dont on a largement débattu, savoir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se voit, qu'est-ce qui se voit pas, quels sont les résultats. Il y a toute une gamme de dispositifs en place qui est un travail de fond, en profondeur, dans la durée, sur le droit des femmes, sur les droits de l'homme, sur l'éducation, sur le développement, etc., etc. Et l'ONU est un observateur privilégié qui, dans la durée, on ne peut pas le nier, est une aide considérable pour les pays. Donc c'est l'intérêt des Nations Unies tout entières, de la planète à grande
merci
échelle,
général
que d'être présente sur le terrain.
Merci beaucoup. Général, on va donner la parole au général Maudit.
Oui, merci beaucoup.
Quelques secondes.
Oui, quelques secondes. Effectivement, la 1325 prévoit plus que ce que j'ai dit. J'ai bien précisé, Madame Rose, que je voudrais juste illustrer par ce que nous faisons dans le domaine policier. Autrement, il y a beaucoup d'autres actions qui sont menées. Maintenant, votre question, 20 ans après, si la leçon est mal assimilée ou mal enseignée, je pense que c'est un travail de longue haleine. Et ça nous interpelle sur l'ensemble des problèmes à résoudre. Actuellement, le colonel ne l'a pas mentionné, dernièrement, le gouvernement a déployé 750 policiers supplémentaires, par exemple dans l'Est, pour soutenir les opérations militaires. Et qu'est-ce qui se passe? Malgré l'effort national, malgré l'accompagnement de la MONUSCO qui a été effectivement d'appuyer, de donner le logement, de la nourriture, etc. à cela, il y a des problèmes structurels qui sont là qu'il faut résoudre. Et ces problèmes structurels, c'est le nombre de gens qui sont recrutés, pas recrutés, c'est la qualité des gens, la formation des gens, et aussi et surtout le soutien aux opérations. Et nous sommes rendus aujourd'hui très rapidement à une période où on questionne l'insécurité à l'Est, la sortie de l'état de siège, et nous sommes en discussion, pas pour enseigner à la police nationale congolaise, mais pour proposer avec la police nationale congolaise quel doit être le rôle de la police pour travailler avec les communautés et dans les communautés pour faire face à un problème très simple qui s'appelle l'insécurité, qui a naturellement des dimensions très multiples.
Merci.
Et qui a des complications très diverses.
Merci mon général Maudit Bérété. On va terminer avec le colonel Mwanamputu, 30 secondes pour conclure cette émission, cette première partie de l'émission. On va passer à la deuxième où nous allons parler de l'apport des sections de la MONUSCO dans la protection.
Oui, je voulais dire que l'insécurité est un phénomène de société. Dès que vous l'attaquez, elle se déplace dans un autre temporel. C'est de cela qu'il faut savoir. Ça s'apprend à l'université. Ce n'est pas ici. Et donc, je suis juriste de formation et criminologue. Regardez ma tête. Je ne suis pas la caricature de l'idiotie. Mais la colocation fait que nous puissions partager les expériences. les uns des autres. Et vous voyez que ma personne, je peux être cocu, rien du tout. Nous n'avons pas été cocufiés. C'est que c'est l'impression que cela donne, mais est-il que lorsque les amis viennent nous rencontrer, partager les domaines d'expérience, ils savent qu'il y a le change pour s'enrichir, et un homme qui s'ouvre aux autres apprend. Et nous avons beaucoup appris d'eux, et eux aussi ont beaucoup appris de nous. Voilà pourquoi la phase de transition est ouverte. La transition voudrait dire simplement que il y a un retrait progressif échelonné, réussi, où il y aura transfert de compétences aux nationaux. Merci beaucoup.
Merci, colonel Mwanampoutou. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous disons merci à tous les intervenants dans cette première partie de l'émission. Nous disons merci au général de division Benoît, adjoint du commandant de la force de la MONUSCO. Merci au général des brigades Maudit Bereté, chef de la composante police de la MONUSCO. Et merci au colonel Mwanampoutou, porte-parole de la police nationale congolaise. Merci d'avoir participé à cette émission spéciale au Capi Service à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Sous vos applaudissements, nous mettons un terme à cette première partie.
Pour s'informer, de plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Merci à vous tous d'être venus et merci d'applaudir très très fort pour vous-même. Voilà. Bien, alors sans plus tarder, nous allons aborder notre deuxième thème. Vous savez, les départements de la MONUSCO ou les sections de la MONUSCO contribuent énormément dans la protection des civils et dans le renforcement des institutions nationales, notamment pendant cette période de transition. On peut citer les sections telles que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les affaires politiques, voilà, et les affaires civiles, dont les représentants sont là devant vous. On va leur accorder la parole. Ils vont nous parler de ce qu'ils font, du travail qu'ils font dans la protection des civils dans cette période de transition. Je commence avec Madame Erika. Voilà, vous êtes directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. Alors, parlez-nous de l'apport du travail de votre section dans la protection des civils en RDC.
Je voulais un peu parler de notre rôle comme BCNDH, comme le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme. Comme vous le savez peut-être, nous sommes au même moment partie de la MONUSCO, mais aussi une agence. Alors, les transitions, nos activités touchent sur la protection des civils, sur la lutte contre l'impunité, sur le renforcement des capacités institutionnelles vont continuer après le départ de la MONUSCO, comme on le fait déjà dans les zones où la MONUSCO s'est déjà retirée. On travaille déjà sur plusieurs questions qui sont très liées à la protection des civils. On a des activités en tant que protection individuelle, les activités de protection civile avec des autres composantes de la mission. On est aussi en train de donner de l'appui pour la lutte contre l'impunité, surtout pour les crimes graves commis par les groupes armés et aussi les forces de sécurité. Dans notre mandat, on a aussi le tâche de renforcer et protéger l'espace démocratique et favoriser la participation politique et l'exercice des droits et libertés fondamentaux, et aussi de renforcer l'égalité et lutter contre toute forme de discrimination. Alors, dans ce cadre, notre travail se passe partout dans le pays, à l'Est, où on appuie les actions de protection des civils en termes de la renforcement et la sensibilisation des forces de sécurité en coordination avec les autres partenaires de la mission et avec l'UNPOL et la force. On est aussi notre mandat contre l'application diligence pour l'homme en termes de le soutien donné par la mission aux forces de sécurité. Également, nous prenons des actions pour renforcer les capacités des institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme de travailler très étroitement avec les associations de victimes, des associations de femmes, la société civile. Alors, comme je l'ai dit, dans le contexte de la transition, nous continuons ces activités. C'était dit avant qu'il y a une présence résiduelle qui reste à Kananga et les droits de l'homme sont partis de ça. Ça va être la même chose à Kalami. Alors, même si la mission se retire, ce n'est pas que le cas que les Nations Unies se retirent. On travaille très étroitement avec les agences pour continuer le travail de protection des civils. Merci.
Bien, merci, madame. Nous allons donner la parole à madame Obianoujou Ngwabi, qui est chef de la section de la réforme du secteur de sécurité et des affaires, de la division des affaires politiques, qui va nous parler de leur apport dans la protection, de l'apport de sa division des affaires politiques dans la protection des civils. Vous avez la parole, madame.
Merci beaucoup. Je vais parler sur le travail que la section RSS, ça c'est la réforme du secteur de sécurité, font ici. Le mandat de MONUSCO a demandé que la section aide la nation pour l'accélération de l'analyse sur le secteur de sécurité. Pour gérer la mobilité et pour le travail que le secteur fait ici au Congo. Et pour la transition, vous avez important que cette est stable. Et c'est très important que si la MONUSCO pas, on a en place la police, l'armée qui peut continuer le travail. On ne cherche pas l'armée, la police qui est parfait, n'est-ce pas? Mais on cherche la police et l'armée qui est responsable, qui peut représenter le pays. Donc, la section travaille avec les différents partenaires nationaux, y compris le CNS, y compris le MNS, les parlements et aussi les institutions de sécurité et les partenaires internationaux pour assurer qu'il y a de bonnes coordinations sur cet secteur et pour assurer que le temps que MONUSCO va partir finalement, or eventual, qu'il y a des armées où il y a des sections, secteurs de sécurité qui donnent les minimum services pour le peuple de RDC. Donc ça, c'est notre mandat ici. Et on travaille beaucoup sur les gouvernances. Pourquoi les gouvernances? Parce que d'abord, si on doit avoir les secteur de sécurité qui fonctionne bien, ça commence avec la stratégie, ça commence avec la fondation. Et la fondation, c'est la stratégie nationale. On travaille aussi avec notre partenaire, notre collègue dans les Nations Unies, parce que la réforme de le secteur de sécurité touche différents aspects de notre vie. Merci.
Merci, madame Obianoujou Nobi, chef de la section de la réforme du secteur de sécurité et de la division des affaires politiques. Alors, on va parler aussi des affaires civiles. Alors, le représentant des affaires civiles est avec nous aujourd'hui. Monsieur Phil Wani, vous êtes responsable du bureau des affaires civiles. C'est quoi les affaires civiles et qu'est-ce que vous faites comme travail dans le cadre de la protection des civils en RDC?
Merci Jody, merci chers participants et merci à nos 24 millions d'auditeurs à travers la RDC. Je vous salue tous. Je voudrais parler un peu du travail que réalise la section des affaires civiles en République démocratique du Congo en ce qui concerne le renforcement des institutions de l'État et la protection des civils. Ce qui est là est notre travail en conformité avec le mandat que le Conseil de sécurité a donné à la MONUSCO et dans sa résolution 2612 de décembre 2021 Et ce mandat est cadré avec effectivement ce que je viens de dire ici, la protection des civils et l'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État. À ce qui concerne la protection des civils, que fait la section des affaires civiles exactement? Ici, nous avons plusieurs choses à dire, mais je vais juste être très bref et je ne vais pas tout dire. La première chose que vous devez retenir est que nous aidons les communautés locales à renforcer les mécanismes d'alerte précoce. Et qu'est-ce que mécanisme d'alerte précoce? Par ici, je voudrais dire que c'est un processus qui permet aux différentes communautés qui sont affectées par des conflits d'alerter les décideurs sur les potentiels déclenchements ou bien soit l'escalade ou la reprise d'un conflit violent. En même temps aussi, ces mécanismes permettent de favoriser une meilleure compréhension chez ces décideurs, bien sûr, de la nature et de compréhension d'un conflit. Et en bref, ces mécanismes permettent à la MONUSCO de rassembler des informations clés sur les menaces prochaines ou imminentes à la contre des civils et dissiper ou réduire ces menaces. Et pour arriver à ça, la section des affaires civiles a mis en place un certain nombre d'outils. Ces outils c'était vraiment une innovation de la MONUSCO. Et ces outils sont maintenant même utilisés dans d'autres missions des métiers de la paix.
Quels sont ces outils?
J'arrive là-dessus, bien sûr. Et je disais, ces outils sont utilisés notamment en Centrafrique, au Sud-Soudan et Mali, etc. Et parmi ces outils, il y a trois principaux que je vais parler ici. Il y en a le premier, les réseaux d'alerte communautaire. Au sein de la MONUSCO, nous avons 69 réseaux pour le moment et qui sont établis dans les quatre provinces où nous sommes présents, entre autres l'Ituri, le Sud Kivu, le Nord Kivu et le Tanganyika. Et à travers ces réseaux, nous collectons les informations, comme je l'ai dit, et nous les transférons aux décideurs. Et par mois, nous atteignons entre 250 à 300 alertes. Et vous allez calculer par an. Par exemple, en 2018 à 2019, on est arrivé à 5943 alertes qu'on a eu à transférer soit aux forces de la MONUSCO, soit à la police MONUSCO, ou bien aux FARDC, ou bien à la police.
Alerte par rapport à une attaque imminente.
Attaque imminente, aux violations des droits de l'homme, etc. Il y a plusieurs types d'alertes. Et cette année, jusqu'au 19 mai dernier, on a eu déjà envoyé 3223 alertes à tous ces décideurs, disons, à tous ces pourvoyeurs de réponses aux menaces. Et le deuxième outil que nous avons développé, ce sont les assistants des liaisons communautaires. Ce sont des engins de la MONUSCO, mais on les appelle des outils d'alerte précoce parce que ce sont des staffs des Nations Unies qui sont utilisés pour gérer les mécanismes d'alerte précoce dans les différentes communautés. Et ce sont des staffs civils qui sont déployés avec les militaires dans les bases militaires et dans des zones vraiment affectées par des conflits. Et ils servent d'interface entre la population, les communautés locales et les militaires. Et aussi, ils servent d'interface entre la population locale, des fois, avec les autorités. Donc, ils ont des points focaux dans les communautés qui leur transmettent des formations en utilisant les différents téléphones qu'ils donnent, à travers les numéros de téléphone qu'ils partagent avec les communautés.
À part cela, deuxième élément, vous avez parlé des trois choses que vous faites.
Oui, oui, il y a...
D'abord, c'est le réseau d'alerte communautaire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a?
Les agents de liaison communautaire.
D'accord. Et troisièmement?
Et puis le troisième, ce sont les comités locaux de protection.
Et comment ça marche avec ces comités?
C'est un forum local où les membres des différents secteurs de la communauté se regroupent et discutent des enjeux liés à leur protection et la sécurité.
D'accord.
Et ils analysent.
Je veux revenir à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir les questions dans la salle. Par rapport au travail à l'apport des différentes sections de la MONUSCO dans la protection des civils, rapidement, des questions? Oui, allez-y.
Merci de la parole. Je suis Damaris Kalinga, étudiante à l'Université catholique du Congo. Alors ma question s'adresse à Madame Erika, j'espère ne m'être pas trompée. Ma question est celle de savoir quelles sont les stratégies de stabilisation que la MONUSCO peut mettre en place afin de renforcer la sécurité en RDC.
Merci, je suis Stéphane Kabanga, étudiant à l'Université Pédagogique Nationale. Ma question s'adresse à tous les panélistes, puisqu'on parle de renforcement des institutions et de la protection des civils. Et nous sommes tous d'accord que pour retrouver la paix, nous ne devons pas recourir que aux solutions militaires, mais que nous devons utiliser tous les autres moyens. Et puisqu'on parle de collaboration entre la MONUSCO et la population. Alors ma question est de savoir quel est votre regard sur l'intégration des anciens rebelles dans les FARDC et la police et tous les services de sécurité en RDC.
Bien, merci. Il y a d'autres préoccupations de ces côtés. Martial, peut-être c'est mieux d'avoir deux micros, un micro qui circule là-bas et un autre de ces côtés. Oui, madame, vous avez la parole.
Je suis madame Laurette Mandala, journaliste à Univers Groupe Télévision. Je pose ma première question à madame Erika du BCNUDH. Nous savons tous que le BCNUDH publie des rapports régulièrement sur la situation des droits de l'homme en RDC. Et alors, je profite de l'occasion, si nous pouvons savoir l'état des lieux de la situation des droits de l'homme dans les provinces sous l'état de siège. Là, je parle du Nord Kivu et de l'Ituri. Et j'en profite également pour poser ma question aux messieurs de la situation protection de civils, c'est ça, hein?
Affaires civiles.
Affaires civiles, voilà.
Monsieur Phil.
Alors, au moment où nous sommes dans cette salle, il y a une guerre dans le territoire de Niragongo. Le FARDC mène un combat rude contre le M23 et la population est en débandade. Et là, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre section de protection de civils, quelque chose comme ça, a mis en place dans les territoires de Niragongo.
Non, la protection, là, c'est la question adressée à madame Obianoujou.
Ok.
Ouais,
dans le territoire de Niragongo, qu'est-ce que la section a mis en place dans les poules, on parle mon massif, la population, nous voyons la population en débandade. Avez-vous reçu des alertes de communautés locales de ce territoire-là? Merci.
Merci beaucoup. Je suis Voldy Ekamba. Je suis le chargé de communication de la plateforme NIREC, qui est la Ligue de Jeunes pour la Renaissance du Congo. Alors, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, partant de la résolution 2250, expliquez-nous, je m'adresse à tous les panélistes, explicitez-nous concrètement, par des exemples, on retrouve de jeunes et la sécurité.
Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de questions qui étaient adressées à moi. Alors, je n'ai pas oublié certaines d'entre ces questions. Premièrement, je vais commencer avec les questions sur l'état de siège. Comme vous le savez, le BCNUDH publie chaque mois un rapport sur les tendances en termes de droits de l'homme pour le mois, et on le fait aussi d'une manière annuelle et aussi semi-annuelle. Ça peut nous donner une idée de les chiffres liés aux violations de droits de l'homme partout dans le pays, mais aussi dans les provinces à l'est. Et on est en train maintenant de préparer un rapport sur l'état de siège. Ce que je peux dire, c'est que oui, on a vu une augmentation en termes de violations de droits de l'homme, comme ils parlaient des forces de sécurité et aussi par les groupes armés. Également, on a constaté qu'il y a eu des conséquences sur l'administration de justice, compte tenu que la juridiction était donnée aux juridictions militaires, même pour les affaires civiles. Il y avait également les effets sur la surpopulation carcérale. On a constaté également qu'il y a eu des mesures qui ont été prises en compte dans les mois derniers pour un peu régler ces problèmes au niveau des juridictionnels. Mais quand même, c'est quelque chose qui est inquiétant et on continue de faire le reportage et le rapport sera disponible dans les mois qui viennent avec les chiffres exacts sur les nombres de violations. Également, on a constaté des restrictions sur les libertés et les droits. Je réponds également à la question, il y avait quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'on fait pour réparation des dommages. Alors, je crois qu'il y a deux côtés de cette question. Il y a ce que le général Chabanais a discuté avant, qui était la question pour les dommages causés, le dommage collatéral causé par la MONUSCO. Mais je crois, si j'ai bien compris la question, que c'était une question plutôt liée aux violations des droits de l'homme et qu'est-ce que la mission pouvait faire à cet égard. Finalement, comme c'était dit par d'autres panélistes, c'est le devoir de l'État pour réparer les violations des droits de l'homme. Mais la MONUSCO, le BCNRH, nous sommes là en soutien. En particulier, et c'est lié à notre question qui a été posée sur Dr. Mukwege, en particulier, nous soutenons le processus national de justice transitionnelle qui est en cours maintenant avec le lancement des consultations populaires dans plusieurs provinces pour adresser en fait les causes profondes du conflit et pour véritablement avoir des consultations pour avoir l'avis du population sur les mécanismes qui pourraient être mis en place pour la justice transitionnelle et les quatre piliers de la justice transitionnelle. Les réparations sont un volet et c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec aussi des autres partenaires surtout les réparations pour les violences sexuelles. Alors ça c'est un volet de la justice transitionnelle et ce qui est important c'est que c'est les communautés qui sont consultées avant de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Alors, sur la proposition de Dr. Mukwege pour un tribunal hybride, ça c'est quelque chose qui pourrait être considéré comme un des mécanismes possibles. Mais il y a aussi d'autres mécanismes qui pourraient également être mis en place. Alors, c'est une option et c'est à la aux populations de déterminer les mécanismes les plus appropriés dans le contexte du Congo. Pour la question ici qui était liée à l'intégration des ex-membres des groupes armés dans la PNC, dans l'affaire DC, certainement, au passé, quand il y avait cette intégration, ça a posé des problèmes en termes de la professionnalisme des affaires des CPNC. Nous travaillons, et je vais laisser ma collègue répondre à les questions liées aux réformes de la secteur de sécurité, mais ce que je veux dire sur cet aspect, c'est aussi dans le contexte du PPD de RCS, Ce qui est clair, c'est qu'il ne va pas soutenir la réintégration des ex-combattants dans la PNC et la FRDC. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important pour...
Madame Erika, oui. Il y a une question par rapport à la création, l'implication des jeunes, création de ONU Jeunes. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question-là?
Oui, en fait, oui, il y avait plusieurs questions sur l'intégration des jeunes et l'importance des jeunes dans le processus de paix et aussi quel soutien est donné par la mission pour les jeunes. Nous travaillons, et c'est pas seulement la section des droits de l'homme, mais aussi des sections qui sont pas ici représentées, mais nous travaillons très étroitement avec la jeunesse, avec le secrétariat du résolution 2250, et aussi sur des moyens d'intégrer les jeunes dans les processus de paix. Nous croyons que c'est très important d'impliquer les jeunes et aussi les femmes dans ces processus.
D'accord. Bien, merci. Madame Obianoujou, Mobi. Vous avez la parole. On s'achemine petit à petit vers la fin de ce programme. Vous avez la parole.
Je vais commencer avec les dernières questions sur le RSS. Peut-être ça, c'est pas le temps de donner cet exercice, mais pensez à vous quelque chose. Est-ce que vous connaissez exactement RSS, le secteur de ça signifie quoi? Si on connaît ça, peut-être ça répond à beaucoup de questions, l'inclusivité et tout ça là. Je veux dire que la MONUSCO a commencé depuis l'année passée, d'abord pour chercher les gouvernances sur le RSS, parce que le RSS ou la réforme de l'armée, la réforme de la police, c'est pas la réforme pour l'armée par l'armée ou pour la police par la police. Est-ce que tu comprends les choses que je dis? La réforme, c'est pour nous tous ici. Parce que si l'armée ne s'est bien formée, c'est pour nous. Et est-ce que les réformes répondent à des besoins de le pays? Ok, donc la section RSS a commencé de travailler à ce qui peut donner les vraies autorisations. Réforme du secteur de sécurité, c'est d'abord politique, avant de venir dans les choses techniques. C'est-à-dire que si l'autorité politique ne parle pas sur cette réforme, les techniques, le niveau technique va continuer, mais il ne peut pas influencer beaucoup de choses. Et depuis on a commencé pour cette réforme, on a resté beaucoup plus sûr au niveau technique. Mais je pense que pour la transition de MONUSCO, c'est le temps. C'est le temps d'assurer que tout le monde qui doit travailler sur cette réforme travaille ensemble. C'est-à-dire le niveau politique, le peuple de Congo, parce que on doit avoir les voix sur les réformes. Donc concrètement, on commence à travailler avec les différents partenaires pour assurer qu'on arrête de, en anglais on dit le train, que la réforme c'est pour le secteur même, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde doit parler sur ça. On travaille avec les PNC et les FRDC aussi de comprendre ça, que la société civile doit apporter son contribution. Même les jeunesses, c'est très important, parce que c'est vous, tu connais les choses que tu appelles sécurité nationale. Hein? Donc, si votre voix, on n'écoute pas votre voix, sur la stratégie nationale, on ne peut pas donner les services qui répondent à votre besoin. Donc ça, c'est un de les préoccupations de MONUSCO, d'assurer que il y a cet niveau d'inclusivité. Et aussi que la réforme, l'appropriation nationale pour la réforme, c'est très important. C'est pas la MONUSCO, c'est pas l'étranger. C'est d'abord DRC. On a fait un atelier où le partenaire national a défini certains défis. Certains défis sur le programme national. Hein? Et la première chose, c'est quoi? Quelle est la vraie définition de RSS sur les réalités de RDC? C'est pas l'étranger qui va faire ça pour le RDC. C'est le RDC qui va s'asseoir ensemble et dire, regarde les types de sécurité qu'ont besoin. On est en train de travailler sur ça pour arriver à le moment où on peut avoir ce type de discussion pour inclure tout le monde. C'est très important.
Merci, Madame Obianoujou Nobi. On va terminer avec Monsieur Phil, responsable du bureau des affaires civiles Kinshasa. Brièvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux questions qui vous ont été adressées?
Ce qui est important de comprendre, c'est que dans un système d'alerte précoce, son succès repose essentiellement sur le lien entre la réception d'une alerte et la réponse qui suit. Et notre travail se limite, dans la plupart des cas, dans les alertes. Nous transmettons l'alerte au pourvoyeur de réponse. Donc, si vous voulez voir notre bilan, je vous ai présenté le nom de plutôt. Nous avons aussi mis en place des comités locaux de protection. Et ces comités-là, ils sont chargés d'analyser les alertes, d'analyser toutes les menaces possibles qui pèsent sur leur communauté. Et vous allez voir dans beaucoup de communautés, dans plusieurs communautés à l'Est, ces barzas, ces comités, quand ils s'assoivent, ils discutent de ces menaces, posent des faits, des actions et des limites de temps précises pour que certains acteurs puissent répondre à leurs besoins de sécurité. Et ça, ça se fait concrètement sur le terrain. Donc, je ne vais pas parler de tout ça, on a passé de temps. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'actions que nous menons, beaucoup d'alertes que nous transmettons à la force de la MONUSCO, au FARDC, et ils réagissent, mais cela n'est pas médiatisé malheureusement. C'est pour cela que, malheureusement, les différents médias, ils ne font que publier plutôt quand il y a la mort, quand il y a des cas, disons, des situations malheureuses qui arrivent. Mais les bonnes pratiques, les exemples de succès ne sont pas publiés. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas le temps de vous le dire. Et je pense que ça a répondu à des préoccupations ici. Et par rapport au programme de désarmement et de mobilisation et réinsertion communautaire, je pense que si vous lisez bien ce document, la MONUSCO appuie la position du gouvernement. Et c'est clair que les ex-combattants ne doivent pas être recrutés encore dans les groupes armés. C'est bien dit dans ce document-là. Et la MONUSCO appuie cette position du gouvernement. Par rapport à... il y a un jeune de l'IREC, je pense, qui a parlé de la résolution 2250. Et dans la section des affaires civiles, et bien sûr au bureau conjoint des droits de l'homme, il y a beaucoup d'activités qui nous disons de renforcement des capacités des jeunes. Et, par exemple, pour nous, nous nous rassurons que les jeunes, par exemple, participent activement dans les mécanismes d'alerte précoce.
Les jeunes veulent la création de ONU Jeunes. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un tel projet peut se faire?
Malheureusement, je ne suis pas au courant de ce projet. Peut-être c'est encore à gestation. Oui. Et peut-être faudrait partager les documents pour qu'on puisse donner notre point de vue. Pour le moment, je ne peux pas donner un avis sur cela.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Phil. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour nos panélistes, mesdames et messieurs? Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci à Madame Obianoujou. Nous disons également merci à Madame Erika Boussé et à Monsieur Phil Wani, responsable du bureau des affaires civiles de Kinshasa. Merci à toute l'équipe de production de Capi Service, Patrick Kiasongwa, Tati Mapoukou, et merci à l'équipe d'Outreach pour l'organisation et à PID dans l'ensemble pour l'organisation de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Et merci à vous tous qui nous avez suivis en direct de Radio Capi, et merci à tous les internautes sur www.radiocapi.net. Applaudissez pour vous-même et à la prochaine.